Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans le podcast Tout sur Tout Histoire. Je suis Clotilde Dagneau. Tout sur Tout Histoire, c'est le podcast énergie pour celles et ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Vous pourrez y découvrir des biographies de personnages célèbres, des récits d'événements marquants, des histoires insolites. Laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Pour cet épisode, j'avais envie de vous parler d'amour. Et j'ai choisi de le faire en vous parlant d'une écrivaine française, Colette. Les thèmes de l'amour, de la passion ou du désir reviennent régulièrement dans son œuvre, mais aussi dans sa vie. Et vous allez le voir, c'est notamment l'amour qui a rendu la vie de Colette aussi scandaleuse. Je connaissais déjà un peu son histoire, donc je m'attendais à ce que sa vie soit un peu dingue. Mais finalement, elle l'est encore plus que ce que j'imaginais. Colette naît Sidonie Gabrielle Colette le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Bourgogne. Dans une partie de la Bourgogne, plutôt modeste d'ailleurs. Son père, Jules Colette, était officier dans le régiment d'infanterie légère français. Un régiment dans lequel il y avait beaucoup de soldats originaires d'Afrique du Nord. Pendant les guerres d'indépendance de l'Italie, Jules Colette est blessé à la jambe à cause d'un boulet de canon. On finira par l'amputer d'une jambe. Il travaillera alors comme percepteur des impôts. La mère de Colette, Sidonie ou Sido, était issue d'une famille martiniquaise en partie d'origine africaine. À l'époque, la Martinique est une colonie française. La mère de Colette est déjà mariée et mère de deux enfants quand elle rencontre Jules. Mais son mari décède peu de temps après. 11 mois après, elle se remarie avec Jules Colette. Ils ont deux enfants ensemble, et le deuxième de ses enfants, c'est Colette. Cette dernière est donc la plus jeune d'une fratrie de quatre. Sa famille l'appelle Gabrielle et sa mère lui donne un petit surnom, Mon joyau tout en or. Rien que ça. Avant la naissance de Colette, la famille est plutôt bien lotie, surtout par rapport aux autres habitants de la région. Sido et ses deux premiers enfants ont hérité de beaucoup d'argent et de biens suite au décès de son premier mari. Mais le jeune couple qu'elle forme avec Jules ne sait pas gérer leur nouvelle fortune. Ils ont beaucoup de terres mais ne savent pas les administrer. Apparemment, Jules fait de mauvais investissements. Par exemple, dans du matériel agricole qui ne rapporte pas grand-chose. En plus de ça, le couple aime les bonnes choses comme la nourriture ou le vin et peuvent avoir des passe-temps assez coûteux. Par exemple, Jules aime beaucoup la science et s'acheter des instruments scientifiques assez onéreux. L'enfance de Colette est plutôt heureuse. Sa mère est passionnée de jardinage, elle apprend à ses enfants à aimer la nature et les plantes. Aussi, la famille a beaucoup d'animaux. Tout au long de sa vie, Colette aura d'ailleurs beaucoup d'affection pour eux. Il y a aussi une bibliothèque à laquelle les enfants peuvent accéder à peu près librement. Colette insistera cependant sur le fait qu'elle n'était pas une enfant plongée dans les livres. Elle aimait surtout être à l'extérieur, dans le jardin et dans les bois. Malgré tout, les problèmes d'argent de la famille finissent par affecter les quatre enfants. Colette va à l'école publique locale, mais quand elle est en âge d'aller dans un pensionnat comme ses frères et sœurs, ses parents n'ont plus assez d'argent pour l'y inscrire. En plus, sa mère ne veut vraiment pas se séparer d'elle. La situation économique de la famille continue de se dégrader. Les parents finissent par vendre leurs terres agricoles pour couvrir leurs dépenses et leurs dettes. La famille vit alors presque exclusivement de la pension du service militaire de Jules. Finalement, ils doivent s'installer chez le demi-frère de Colette, qui est devenu médecin. Autre problème, le manque de moyens financiers de la famille rend aussi difficile le fait de trouver un mari convenable pour Colette. À l'époque, Le mariage est la voie traditionnelle pour une jeune femme de sa classe sociale. C'est même la seule voie acceptable. Du coup, Jules et Sido sont plutôt soulagés quand leur fille est attirée par une connaissance de la famille. Même si l'heureux élu a une réputation de coureur de jupons et qu'il est déjà beaucoup plus vieux qu'elle. Et cet heureux élu, c'est Henri Gauthier Villard, dit Willy, un journaliste et critique musical. Les deux se rencontrent en 1889. Colette a 16 ans et Willy 30. Elle est sous son charme. Mais au début, ça n'a pas l'air réciproque. Willy entretient alors une relation avec une femme mariée, Marie-Louise Servat, qu'il décrit comme son premier grand amour. Ensemble, ils auront un fils, Jacques. C'est d'ailleurs vers cette période que Marie-Louise Servat et son mari divorcent. Willy reconnaît donc légalement son enfant. Sa relation avec Colette ne commence vraiment qu'après la mort soudaine de Marie-Louise Servat, en 1891. Jacques, son fils, a seulement 2 ans. Willy demande aux parents de Colette de l'aider à trouver une nourrice. C'est parfois Colette qui doit garder Jacques. Certains éléments de la relation entre Willy et Colette ne sont pas très clairs. Comme je vous le disais, Colette est très amoureuse de Willy. Mais vu ses lettres de l'époque, il ne ressent pas la même chose pour elle. En fait, il est très affecté par la mort de Marie-Louise Servat. Se pose donc la question des raisons qui l'ont poussé à épouser Colette. Et le fait d'éviter un scandale semble être l'une d'entre elles. En effet, Colette aurait dit à son 3e mari que Willy l'avait violée avant leur mariage. On ne trouvera cependant jamais de traces de chantage au scandale dans les lettres qui arrangent le mariage. En tout cas, le couple s'unit le 15 mai 1893. Elle a 20 ans et lui 33. Après le mariage, Willy envoie son fils Jacques se faire élever par une grand-mère. Suite à cela, Colette et lui partent s'installer à Paris. Sur de multiples aspects, Colette ne correspond pas du tout à ce qu'on attend des jeunes filles et des jeunes femmes de la fin du 19e siècle, surtout dans la région où elle a grandi. Quand elle était écolière, par exemple, elle se faisait déjà appeler Colette par ses camarades, à sa demande. Or, se faire appeler par son nom de famille, c'était un truc de garçon. Par ailleurs, son modèle féminin à la maison, sa mère, n'était pas des plus conventionnels. Elle s'intéressait beaucoup plus aux promenades en plein air qu'à l'apprentissage de toutes les compétences domestiques nécessaires à la tenue d'un foyer. Elle était vive, curieuse et avenante, mais elle n'était pas considérée comme particulièrement féminine. Alors quand elle arrive à Paris avec Willy, Colette a encore du mal à trouver sa place. Car en plus de ne pas correspondre à ce qu'on attend d'une femme de son époque, elle a des vêtements et un comportement de campagnarde. En plus de cela, elle fait plus jeune que son âge. Par exemple, elle coiffe ses cheveux en 2 très très longues tresses, ce qui lui donne l'air d'une petite fille. C'est d'ailleurs un trait qu'elle pousse, car elle sait que Willy, son mari, aime les femmes plus jeunes. À Paris, elle se sent très seule, même si elle se fait quelques amis. En 1894, elle reçoit une lettre anonyme qui lui indique une adresse où elle peut se rendre si elle veut surprendre son mari avec une autre femme. Elle y va, et elle le surprend, comme indiqué dans la lettre. Cela la dévaste. Après ça, elle tombe très malade. Elle met des mois à se rétablir. Pour certaines personnes, elle fait en fait une dépression. Pour d'autres, c'est plutôt une fièvre persistante. À l'époque, Willy est un écrivain très productif, mais une grande partie de ses textes sont rédigés par d'autres personnes. On dit de lui qu'il est le dirigeant d'une usine de prête-plume. Certains de ces écrivains sont en début de carrière. Il y en a aussi qui sont déjà connus et qui font ça pour l'argent. En fait, Willy est très doué pour le marketing. Du coup, les auteurs qui écrivent des textes pour lui peuvent gagner beaucoup d'argent parce qu'il vend bien. Pour certains, ça en vaut la chandelle, même si ça les empêche d'être reconnus pour leur travail. Certains disent que c'est Willy qui a suggéré à Colette d'écrire un livre sur son passé à l'école en ajoutant quelques détails salaces. À l'inverse, Colette a déclaré que c'était son idée et que Willy était contre au départ. Peu importe lequel des deux a eu l'idée, Colette finit par écrire ce livre. Au début, Willy n'y touche pas. Mais il y revient quelques années plus tard et c'est comme ça que le premier livre de Colette est publié en 1900. Le titre, c'est « Claudine à l'école ». C'est un récit de passage à l'âge adulte sous forme de journal intime. L'héroïne a 15 ans, elle s'appelle Claudine, et elle vit sa dernière année à l'école du village. Il y a un triangle amoureux entre Claudine, Aimé, qui est l'assistante de la directrice de l'école, et la directrice elle-même, qui est beaucoup plus âgée. On considère parfois ce roman comme l'un des premiers romans pour adolescents. Aujourd'hui, on dirait un roman young adult. Et Claudine est parfois considérée comme le premier personnage adolescent. Alors bien sûr, il y a toujours eu des personnages âgés de 13 à 19 ans dans les livres. Mais l'idée que les adolescents forment un groupe particulier, avec des points communs dans leur personnalité et leur développement, n'était pas encore établie à l'époque. Claudine n'est pas considérée comme le meilleur roman de Colette. Par contre, ses premières lignes montrent bien à quel point son écriture peut être évocatrice, sans utiliser beaucoup de mots. Je cite « Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis née en 1884, probablement je n'y mourrai pas. » À cette époque, Colette a déjà publié quelques articles sous son propre nom, mais Claudine à l'école paraît sous le nom de Willy. Dans beaucoup d'articles et de biographies, on peut lire que Willy a volé le mérite du travail de Colette sans son consentement. Mais Colette dit que la décision est mutuelle. Il voulait apparemment éviter que la publication d'un livre émoustillant sous le nom de Colette ne nuise à la réputation de son demi-frère qui venait d'épouser la fille d'un vicomte. En tout cas, c'est vraiment Colette qui a écrit ce roman. Au début, Claudine à l'école ne se vend pas bien. Mais Willy demande à quelques-uns de ses amis respectés d'écrire des critiques favorables. Et là, le livre devient un best-seller, le premier d'une longue série. Les aventures de Claudine sont largement inspirées de la vie de Colette, d'après les gens qui la connaissent à l'époque. Et le fait que Colette en soit la vraie autrice est déjà un secret de Polichinelle. Claudine devient aussi une sorte de marque. Il y a des parfums Claudine, des savons Claudine, des cigares Claudine, des cols Claudine pour les vêtements, et bien d'autres. Mais Colette ne reçoit pas d'argent pour tout ça. Tout est pour Willy. Willy ne commence à lui donner une allocation régulière que quand l'une des aventures de Claudine est adaptée en pièce de théâtre. Avec ce tournant, la franchise Claudine devient une source d'argent très importante. On dit aussi que Willy pousse Colette à écrire de plus en plus. Il paraît même qu'il l'enferme dans sa chambre quand elle n'est pas assez productive. Ces épisodes apparaissent aussi dans les fictions qu'écrit Colette. Pourtant, elle dira que c'est faux. Elle n'a été enfermée dans sa chambre que dans leur maison de campagne et qu'à sa propre demande, parce qu'elle avait du mal à se concentrer. En parallèle de la série Claudine, Colette opère des changements dans sa propre vie. Vers ses 30 ans, elle se coupe les cheveux courts, ce qui choque d'ailleurs certaines personnes de sa famille. Elle se met aussi à porter des vêtements androgynes et commence à avoir des liaisons avec des femmes. Apparemment, elle pense que Willy aurait trouvé cela moins menaçant et qu'il aurait moins accepté qu'elle ait des liaisons avec des hommes. Son entourage de l'époque est au courant de ses relations extra-conjugales et approuve. Il l'encourage même à intégrer ses relations dans ce qu'elle écrit. Juste après la sortie du troisième livre de Claudine, Colette a une relation courte avec Nathalie Clifford Barney. C'est une écrivaine américaine qui s'est installée à Paris. Elle tient un salon réservé aux femmes. Beaucoup de participantes à ce salon sont lesbiennes ou bisexuelles. Barney elle-même est ouvertement lesbienne. Or, à l'époque, l'homosexualité est très stigmatisée. Elle et Colette resteront amies après leur séparation. Et Colette reste dans ce cercle presque jusqu'à la fin de sa vie. Au moment où Colette écrit le dernier Claudine, elle commence à envisager de quitter son mari. Il l'a beaucoup influencée en tant qu'écrivaine, mais ce n'est clairement pas un bon époux et partenaire pour elle. En 1904, elle publie « Dialogue de bête » sous le nom de Colette Willy. Pour la première fois, l'argent de la vente du livre lui revient à elle plutôt qu'à son mari. Mais Colette sait qu'elle aura besoin d'une autre source de revenus en cas de divorce. Elle commence à prendre des cours de danse avec l'aide d'un ami, l'acteur et mime George Wagg. Elle veut entamer une carrière sur scène. L'année suivante, Colette et Willy commencent une procédure de partage légal de leurs biens. Ce n'est pas vraiment lié à leur mariage. En fait, Colette a fait gagner beaucoup d'argent à son mari grâce à ses livres et aux adaptations en pièces de théâtre. Or, Willy n'est pas doué pour gérer son argent. Il le dépense sans compter. Colette a aussi des dettes, mais beaucoup moins. Cette séparation de leurs biens signifie surtout qu'aucun des deux ne peut être tenu responsable des dettes de l'autre. Et ainsi, Willy peut transférer les droits d'auteur à Colette pour les protéger d'une intervention éventuelle des huissiers. Toujours en 1905, Colette rencontre Mathilde de Mornay, ou Missy, dont le père est le duc de Mornay et l'oncle de Napoléon III. Missy se fait aussi appeler « Oncle Max » et utilise « Issim » comme nom de scène. « Issim », c'est Missy à l'envers. Missy de Morny est célèbre dans le Paris du début du XXe siècle. De 1881 à 1903, elle a été mariée à Jacques Godard, le sixième marquis de Belleboeuf. La rumeur dit que Godard est homosexuel et que leur mariage est surtout une couverture pour lui. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations à son sujet, mais il y a des détails sur leur mariage qui contredisent cette idée. Il y a aussi du mystère autour de Missy. Une partie de sa mauvaise réputation vient du fait qu'elle porte des costumes et des pantalons, qu'elle a les cheveux courts et un comportement masculin. Or, à l'époque, si vous n'êtes pas un homme, vous êtes hors la loi en portant un pantalon. Si Missy peut à peu près se le permettre, c'est grâce à sa richesse et à son statut social. Certaines personnes interprètent aujourd'hui Missy comme un homme transgenre et utilisent les pronoms « il » et « lui » pour la désigner. D'autres la considèrent comme une lesbienne qui aimait se travestir ou défier les normes de genre. Dans ses lettres à Missy, Colette utilise des pronoms féminins. Elle l'a utilisé comme source d'inspiration à la fois pour des personnages masculins et féminins. Colette et Missy se sont rencontrées environ un mois avant que Colette et Willy n'entament la séparation légale de leurs biens. Mais Colette vit toujours avec son mari et ils continuent à vivre ensemble pendant assez longtemps. La relation entre Colette et Missy est scandaleuse pour l'époque. À partir de 1906, Colette fait à nouveau scandale en se produisant comme mime dans deux théâtres différents. Pour les femmes, le métier d'actrice est assimilé au travail du sexe. En plus, le mime est considéré comme une forme de théâtre particulièrement bas de gamme. Du coup, le choix de Colette de monter sur scène, surtout pour devenir mime, fait beaucoup parler. Certaines de ses performances sont particulièrement scandaleuses. Le 3 janvier 1907, par exemple, Colette et Missy jouent dans une pantomime intitulée « Rêve d'Égypte » au Moulin Rouge, coécrite par Missy. Missy joue un archéologue qui ouvre un sarcophage. Colette sort du sarcophage, très légèrement vêtue, et danse de manière provocante. Ensuite, les deux femmes s'embrassent passionnément. Plusieurs récits de cette représentation disent qu'une émeute éclate spontanément. Certains spectateurs applaudissent ce baiser, d'autres jettent des objets sur la scène. En réalité, le Moulin Rouge a fait la promotion de cette pantomime en y associant le nom de Morny, de la famille de Missy. Du coup, le frère et l'ex-mari de Missy et aussi plusieurs de leurs amis, sont venus au théâtre en étant déjà indignés, avant même d'avoir vu quoi que ce soit. Ils tentent de perturber la représentation dès qu'elle commence. Mais Missy et Colette continuent de jouer. En 1907, le livre suivant de Colette, « La retraite sentimentale », est publié sous le nom de Colette Willy. Il est clairement influencé par la fin progressive de son mariage. On retrouve dans ce livre deux personnages des livres de Claudine, Claudine et Annie, Elles vivent dans une maison clairement inspirée de celle où Colette vit avec Willy. C'est le dernier livre de la série Claudine. Et dans l'intrigue, le mari tombe malade et meurt. Pendant ce temps, Willy vend les droits d'auteur des Claudines qui ont été publiés sous son nom. Il n'en parle pas à Colette et ne l'informe même pas qu'il a conclu l'affaire. Elle le découvre seulement en 1909. Évidemment, et à juste titre, elle est scandalisée. Et à ce moment-là, ils en sont aux dernières étapes de leur divorce. Ils se séparent d'ailleurs de manière très publique et dramatique. Il y a des procès et des contre-procès, et leur correspondance est publiée. Les relations entre Colette et Missy sont déjà tendues quand elles achètent la Villa Rosven à Saint-Coulon, en Bretagne. Colette a attiré l'attention d'un homme, jeune et riche, Auguste Olympe Herriot. Auguste et Missy sont jaloux l'un de l'autre. Mais Missy veut tellement rester avec Colette qu'elle autorise la venue d'Auguste à Rosven. La situation empire encore quand Colette s'intéresse au baron Henri de Jouvenel. Il est journaliste politique très en vue pour le journal Le Matin, où Colette est chroniqueuse régulière. Donc il n'est pas vraiment son supérieur, mais il tient quand même une place plus importante qu'elle au journal. Henri de Jouvenel est marié. L'une de ses ex-amantes est tellement scandalisée par sa relation avec Colette qu'elle la menace de mort. Ce qui n'empêche pas Colette d'emménager avec Henri en 1911. C'est ce qui met fin à ses relations avec Missy et Auguste. Assez vite, Colette tombe enceinte. Elle décrit sa grossesse comme un accident et elle la cache aussi longtemps que possible. La femme d'Henri de Jouvenel accepte de divorcer parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour le futur enfant. Colette et Henri se marient donc le 18 décembre 1912. Leur fille, Colette Renée de Jouvenel, naît le 3 juillet 1913. Colette surnomme sa fille Belle Gazou. Elle deviendra un personnage de certaines de ses œuvres. Il y aura d'ailleurs beaucoup d'amour dans ce que Colette écrit sur sa fille. Pourtant, elle n'a pas beaucoup de relations avec elle. Elle dit elle-même qu'elle n'a pas beaucoup d'instinct maternel après l'accouchement. Colette Renée est surtout élevée par des nounous et des amis. Et ensuite, elle part en pension. En général, elle ne voit sa mère qu'une ou deux fois par an. En parallèle, la relation de Colette avec son mari prend un tournant, peu après la naissance de leur fille. Je vous en parle au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout sur Tout Histoire. Tout sur Tout Histoire est un podcast Énergie et iHeart Podcast. Cet épisode a été écrit par Tracy Wilson et Oli Frey pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class et produit en collaboration avec l'Acme Productions. Retrouvez tous les épisodes sur energie.fr, sur l'application Énergie ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt !